Mais tout de suite, nous accueillons Monsieur Abdallah Zakri. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir.
L'Observatoire national contre l'islamophobie se charge de collecter, d'enregistrer et d'analyser les témoignages des victimes et des témoins d'actes islamophobes. Chaque acte anti-musulman est contrôlé et analysé. Le but est d'obtenir des renseignements afin de conseiller et accompagner les victimes et prendre la disposition qui s'impose selon les circonstances. Pour nous en parler, on reçoit aujourd'hui Monsieur Abdallah Zakri, président de l'Observatoire national de l'islamophobie et le secrétaire général du Conseil français du culte musulman. Monsieur Abdallah Zakri, bonjour.
Bonjour, oui.
Vous êtes le secrétaire général du Conseil français du culte musulman. Pouvez-vous nous parler sur le rôle de cette institution et son financement ?
Écoutez, le rôle de cette institution, vous savez qu'elle a été créée en 2003 par Jean-Pierre Chevènement parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur au niveau du culte musulman avec les pouvoirs publics, contrairement aux autres cultes, les chrétiens et les juifs et les protestants. Donc, par la suite, ça a été mis... en opération opérationnelle, comme on dit, par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Donc le rôle du CFCM, c'est d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics, d'essayer de discuter de tout ce qui touche à l'islam et à l'organisation de l'islam, les lieux de culte et ainsi les besoins de la communauté musulmane. Ça, c'est donc au niveau du CFCM. Et le CFCM, autour de cette organisation, il y a eu la création des CRCM, ce qu'on appelle les conseils régionaux du culte musulman sur les 24 régions de France, qui eux aussi ont un rôle à jouer dans le cadre de l'organisation de l'islam en France, hein, parce que pour moi, il n'y a pas d'islam de France, pour que je sois clair, et naturellement remonter les informations au niveau du CFCM lorsqu'il y a blocage ou lorsque le CRCM souhaite que le CFCM puisse les aider pour des démarches, parce qu'il y a par exemple certains maires qui refusent l'implantation des lieux de culte dans leur région, il y a certaines maires qui naturellement ne dialoguent pas avec les instances régionales ou départementales du culte, et donc le CFCM agit pour essayer de créer un climat de confiance et surtout de dialogue et expliquer qu'est-ce que c'est l'islam, contrairement à ce que l'on veut faire croire vu les événements dramatiques qui sont déroulés en France et en Europe.
Quelle est votre source de financement ?
Il n'y a pas de financement. Les sources de financement, ce sont les mosquées. Lorsqu'il y a des élections, ils paient leurs cotisations. Malheureusement, ces sommes-là ne suffisent pas du tout pour faire tourner le CFCM. J'étais moi-même trésorier pendant 2 ans et j'avais déclaré à l'époque que le CFCM était en faillite financièrement. Bon, et il va de soi que maintenant on est en train de voir avec le ministère de l'Intérieur, parce que vous savez qu'il y avait une fondation des œuvres d'islam qui a été créée à peu près une dizaine d'années. Et dans cette fondation, il y a eu un seul donateur qui avait donné à l'époque 1 million d'euros, c'était Dassault. Et cet argent, malheureusement, a été bloqué parce que cette fondation n'a pas joué son rôle, dans la mesure où il y a eu des tensions dans la direction de cette fondation. Donc cette fondation, maintenant, elle est dissoute et on est en train de travailler sur une autre fondation avec un autre, si vous voulez, calendrier et surtout des nouveaux statuts, parce que le statut de l'ancienne fondation ne permettait pas qu'on puisse financer le CFCM. Bon, ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a une nouvelle piste où on a demandé aux 3 grandes mosquées, c'est-à-dire la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon et la mosquée d'Evry, qui sont les seules à bénéficier de ressources financières dans le cadre de l'abattage halal, de naturellement de financer et de verser une contrepartie au CFCM. C'est que tout à fait anormal que 3 mosquées gardent l'argent uniquement pour elles, alors qu'il y a un conseil français du culte musulman qui a besoin d'argent et que, naturellement, doit être financé. Maintenant, il est vrai qu'il y avait d'autres pistes. Moi, j'avais proposé à l'époque une piste très simple. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises importantes, et particulièrement du bâtiment, qui travaillent avec les pays du Maghreb et avec les pays arabes, et qui gagnent beaucoup d'argent. J'avais sollicité qu'on puisse les rencontrer afin de leur demander également, parce que c'est la loi le permet, de verser une contribution au CFCM, contribution qu'ils peuvent naturellement déduire de leurs impôts. Mmh. Bon, donc il y a plusieurs pistes. On est en train de travailler dessus parce que le CFCM doit fonctionner et doit vivre.
Bien sûr, on l'entend bien, oui.
Et les actes islamophobes sont-ils baissés ou augmentés depuis votre dernier bilan ?
Alors, il y a, vous savez, des discours contradictoires. Il est vrai que nous avons terminé l'année 2015 avec 429 actes anti-musulmans, parce qu'en 2015, il y a eu les événements de Charlie Hebdo en janvier, puis le Bataclan le 13 novembre. En janvier, les chiffres, franchement, ont explosé avec une augmentation de 1172% suite, naturellement, à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et au magasin Kacher de Vincennes. Et puis, plus en novembre. Donc, on a eu une augmentation de 232% sur l'année 2015 par rapport à 2014. Alors, maintenant, pour 2016, je ne suis pas tellement d'accord avec les chiffres parce qu'on parle d'une baisse. Oui, réellement, il y a une baisse. Hein, objectivement, il y a une baisse qui est enregistrée actuellement. Mais, si vous voulez, cette baisse, elle est un petit peu... Elle n'est pas claire. Pourquoi ? Parce que en 2015, on a eu des événements dramatiques. En 2016, on n'a pas eu d'événements dramatiques. Heureusement d'ailleurs, on n'a pas eu d'événements. Donc par conséquent, on ne peut pas faire la comparaison en disant qu'il y a une baisse au mois de mai de 200% par rapport à 2015. Dans la mesure où le chiffre 2015, et je vous dis, c'était dû à un contexte assez pénible, assez grave, les actes terroristes, mais en 2016, il n'y a pas eu d'actes antiterroristes. Donc moi, je préfère faire un parallèle à 2014, où c'était une année comme 2016, où il n'y a pas eu d'actes. Et par conséquent, si on tient compte de cela, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse. Il y a une légère augmentation, certes, mais les chiffres qui sont donnés par les services de police, gendarmerie, transmis au ministère de l'Intérieur et par rapport également à nos statistiques, oui, il y a une baisse, mais cette baisse, elle est un petit peu artificielle.
Merci. Effectivement, les chiffres parlent et il faut les faire bien parler.
Et comment vous voyez...
Ce qui est très important à noter au niveau des actes, au-delà des actes anti-musulmans et au-delà de climat que nous avons vécu en 2015, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le discours des hommes politiques, y compris ces derniers temps encore Sarkozy, que j'ai accusé d'attiser le feu contre les musulmans, parce qu'il revient au pays chrétien, qu'au pays qui veut qu'on chante la Marseillaise dans les écoles, qu'on mette des tabliers pour tout le monde, et puis qu'il y ait une levée de drapeau. Ça me rappelle les régimes staliniens, moi, de l'époque. Donc, il y a une surenchère et plusieurs hommes politiques. Monsieur Juppé, qui est un monsieur normalement raisonnable, et puis tout d'un coup, j'étais surpris d'entendre que Monsieur Juppé nous demande d'extirper du Coran les versets qui prônent la violence. Alors, la seule chose, moi, je rappelle à Monsieur Juppé d'aller voir un petit peu ce qui est dit sur la Bible, la violence de certains... articles au niveau de la Bible avant de parler de l'islam, et l'islam de toute façon c'était la parole de Dieu qui a été transmise au prophète Mohammed a.s.w. Je ne vois pas qui des musulmans, à moins qu'ils trouvent certains imams charlatans qui peuvent dire on peut changer le Coran, mais à ce moment-là c'est franchement n'importe quoi. Mais là aussi je vous dis, il y a une surenchère, et lors de certaines interventions télé que j'ai eu dernièrement à faire, j'ai mis en garde les musulmans de France et également les autorités, parce que après les vacances, nous allons arriver en septembre, octobre, où il va y avoir les élections des primaires dans les différents partis politiques et par la suite la campagne présidentielle, et je sais que les musulmans vont en prendre plein la gueule, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'on va encore dire c'est l'islam, c'est les musulmans qui naturellement sont les conséquences du climat, or que la France traverse une crise politique, une crise morale, une crise économique, une crise sociale qui n'a rien à voir avec ni l'islam, ni les musulmans. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des hommes politiques de droite, mais il y a quelques-uns de gauche également qui veulent surfer sur les thèses du Front National et qui, comme dit Coluche, ils veulent laver plus blanc que blanc, c'est-à-dire avoir des discours en plus forts que le Front National.
Et pensez-vous, monsieur Zekri, que... La future campagne va déranger la communauté musulmane qui vit en France ?
Oui, je suis persuadé, parce que c'est une campagne qui va être sur l'identitaire. Elle ne va pas être sur le sujet économique, sur le sujet du chômage, sur le sujet de... Bon, il y aura certainement quelques personnes qui vont parler de cela, mais je suis persuadé qu'elle va être encore sur l'identitaire, sur l'islam, sur le voile intégral, sur le repas de substitution, sur, c'est-à-dire tout ce qui touche l'islam de loin ou de près. J'en suis convaincu.
Les gouvernements ont mis en place des mesures anti-islamophobes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'elles existent réellement ou est-ce que c'est des effets d'annonce?
Non, ils ont mis en place, vous savez, au niveau du ministère de l'Intérieur, quand il y a eu les actes contre des mosquées et tout ça, on a créé donc au niveau du ministère de l'Intérieur une mission de coordination pour la protection des lieux de culte à caractère religieux, que ce soit musulman, juifs ou chrétiens, hein, parce que également on parle des actes anti-musulmans, anti-juifs, mais les chrétiens aussi ont beaucoup de problèmes par rapport à leur église ou par rapport à leur cimetière, et je reviendrai là sur le cimetière. Donc il y a eu quand même un budget de 9 millions d'euros qui a été mis donc à la disposition d'un préfet qui est chargé donc de cette mission de coordination de protection des lieux de culte. L'État finance 80% pour la mise en place, si vous voulez, de caméras de surveillance, etc. Les 20% sont pris en charge par les lieux de culte. Actuellement, il y a eu 16 dossiers complets en 2016 qui ont été reçus pour une protection de 12 en vidéoprotection, qui ont fait l'objet de délégations et de crédits en préfecture à la hauteur de 169 000 euros de subvention. Bon, mais on est loin du compte parce que là, il faut quand même être honnête, c'est la faute également de certains responsables de lieux de culte ou de grandes mosquées qui n'ont pas déposé leur dossier. Mais quand les dossiers sont déposés, ils sont suivis. Je fais partie, moi, de cette commission également, qui se réunit à peu près deux fois par mois ou bien une fois. Dans la prochaine réunion, d'ailleurs, est fixée au mardi 12 juillet pour faire le point de toutes les mosquées qui ont bénéficié de ces vidéoprotections et ainsi le nombre de demandes qui a été déposées, où s'en est leurs études de ces dossiers, où s'en est le financement, etc. Donc, c'est pas un effet d'annonce. Oui, c'est vrai, il y a eu de la part du gouvernement un effort assez important dans la mesure, je vous dis, il y a eu 9 millions d'euros quand même qui a été mis à la disposition des lieux de culte pour la protection.
Puisqu'on parle sur les mosquées, Monsieur Zakrié, la mosquée de Nice était visée récemment et même d'autres mosquées ont été incendiées ou vandalisées. Est-ce que le Conseil français du culte musulman a pris des mesures pour limiter ces actes?
Oui, nous avons, c'est-à-dire les mesures, d'abord c'est au service de sécurité. Je vous prends, vous me parlez de Nice où il y a eu un sanglier qui a été mis à côté de la mosquée où j'ai réagi d'ailleurs immédiatement 2 heures après. Il y a eu la Corse également, les événements dramatiques de Corse où je me suis énervé, parce qu'on avait arrêté les jeunes qui ont voulu s'attaquer aux pompiers et puis on a mis du temps à arrêter les Corses qui ont voulu incendier la mosquée. Et je me suis même posé la question avec une boutade aux autorités pour dire est-ce que les caméras de vidéosurveillance sont elles-mêmes racistes? Elles arrivent à détecter les Arabes, mais non pas les Corses. Bon, quelques jours après, on nous a informé qu'il y a eu, c'est vrai que c'était de la discrétion et ainsi de suite, mais que des Corses, 5 ont été arrêtés, impliqués naturellement dans la tentative d'incendie. Bon, c'est-à-dire qu'il faut parler également pour faire bouger les choses, il faut s'exprimer, il faut dénoncer, il faut pas se taire. Malheureusement, certains responsables de culte, se taisent ou ils ont peur ou je comprends pas leur attitude, mais il est vrai que jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, il y a eu des tentatives sur des lieux de culte avec des tags nazis, avec des slogans racistes et tout, mais depuis l'année dernière, c'est la première fois où on assiste à des tirs de balles réelles sur des façades de mosquées, à des jets de cocktails molotov pour incendier des mosquées, et puis naturellement, le nombre d'actes a augmenté et la violence avec laquelle ces actes sont commis également ont augmenté. C'est comme par exemple les agressions l'année dernière de femmes qui portaient le foulard ou le voile, mais qui respectaient la loi de la République parce que le visage était découvert.
Oui, il y a de plus en plus aussi d'actes de racisme ordinaire qui se passent tous les jours. Enfin, moi, j'étais témoin dans le métro
je suis entièrement d'accord. Vous savez, moi, je suis allé à Marseille, je suis allé à Paris, je suis allé à Toulouse, où j'ai discuté avec des gens. Et comme je l'ai répété aux autorités françaises, quand vous parlez avec ces gens-là, ils vous disent le regard de l'autre a changé. Vous prenez un jeune avec une petite barbe, il rentre dans un métro, il rentre dans un bus ou dans un train, il suffit qu'il ait un sac à la main, il le regarde de travers. Une femme qui porte le voile, il y en a une, elle me dit, je me suis assise, la personne qui était à côté de moi, elle s'est levée pour ne pas rester à côté d'elle parce qu'elle portait le voile. Ou d'autres personnes entendent des réflexions, t'as qu'à rentrer chez toi. Bon, il y a justement ce climat qui est naturellement pas bon. Et puis, il y a les discriminations dont on parle jamais. Il y a beaucoup, je suis saisi de plus en plus, des discriminations à l'emploi, des discriminations dans l'administration, dans la police, dans la fonction public, à la CNCIF, etc. Parce que la personne, elle est d'origine ou quoi. Donc, ces discriminations aussi. Bon, c'est vrai, les discriminations, c'est très difficile d'apporter la preuve que c'est des discriminations, mais vous prenez, par exemple, une femme brigadier de police, qui tous ses collègues sont passés brigadier-chef au bout de 3-4 ans, et elle, ouais, ça fait 8 ans, elle n'est pas passée brigadier-chef parce qu'elle a des problèmes avec ses supérieurs. Donc tout ça, ce sont également des actes de discrimination qu'il faut également prendre en compte, analyser, et on est en train de voir avec le ministère de l'Intérieur qui a mis en place un nouveau dispositif concernant les discriminations pour voir comment aboutir, parce qu'il y a quand même à peu près 16 000 ou 15 000 actes de discrimination, mais ça dépend maintenant, il faut analyser, est-ce que c'est pas parce que la couleur, parce qu'ils sont noirs, est-ce que parce qu'ils sont étrangers, est-ce que parce qu'ils sont arabes, etc. Donc ça encore, c'est assez difficile à déterminer, mais il faut travailler dessus afin que les futures générations puissent trouver déjà un travail qui est accompli.
Et comment définiriez-vous les difficultés et les différences entre les actes anti-musulmans et les actes racistes ?
Vous savez, les actes anti-musulmans, ça concerne les lieux de culte, parce que c'est un lieu de culte, c'est quelque chose de musulman. Ça concerne lorsqu'il y a un imam agressé, lorsque voilà. Et après, vous avez les actes racistes, le bonhomme qui insulte sale arabe, sale bougnoule, ce sont des insultes, parce que nous dans nos analyses et dans les chiffres, nous avons ce que nous appelons les actions et les actes. Bon, les actions, c'est la violence, et puis après, vous avez les menaces. Bon, nous-mêmes, on reçoit la semaine dernière, j'ai reçu 4 lettres, certaines à mon nom, d'autres pas à mon nom, au CFCM, pour dire, je ne peux pas dire à l'antenne ce qui est dit, parce que c'est très grave, mais ce sont des insultes, des menaces. Bon, quand vous voyez également, on n'a pas parlé des réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux où on voit la haine, où ils disent que les responsables musulmans doivent être tués, les responsables musulmans doivent dégager, les musulmans, la valise ou le cercueil, les musulmans, vous êtes une vermine qu'il faut écraser. Voilà ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Et là, justement, on a alerté le ministère de l'Intérieur pour qu'il puisse voir au niveau de ces réseaux. Mais malheureusement, ils nous disent que ce sont des sites Internet qui sont hébergés à l'étranger et qu'il est très difficile de les fermer. Voilà.
Et aujourd'hui, on a remarqué, avec la montée du Front National, que les gens qui ont des idées racistes s'expriment de façon beaucoup moins cachée qu'avant.
Ils osent s'exprimer. C'est la France décomplexée de M. Copé et de M. Sarkozy. La France décomplexée qu'il faut maintenant dire tout haut ce qu'on pense et ainsi de suite. Ils ne veulent pas laisser le Front National parler, parce que le Front National, finalement... Moi, je vous dis une chose, moi, il m'inquiète pas, le Front National, parce que je connais leurs idées, je connais leurs combats depuis très longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est la lâcheté des autres quand ils viennent. Sarkozy, il est venu manger à la mosquée de Paris plusieurs fois. Il disait son amitié pour l'islam et les musulmans, mais dès qu'il sort, il dit le contraire. Copé aussi, il est venu à la mosquée de Paris. Ils passent tous par la mosquée de Paris pour essayer d'aller un petit peu raconter n'importe quoi, pensant que la mosquée de Paris, elle, va lancer un message aux musulmans pour... Non, mais ils ne suivent pas. Ils suivent pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. S'ils pensent qu'en venant à la mosquée de Paris, cette dernière va leur donner un blanc-seing ou va leur donner un satisfecit pour que les musulmans votent pour eux, eh bien, ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement.
Et la politique menée contre l'islamophobie, comment vous le voyez, M. Zakri ?
Comment la politique menée contre l'islamophobie ? Votre question, elle n'est pas claire. Qu'est-ce que vous entendez, la politique menée ?
Oui, on a vu sur Internet, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé qu'il y a une politique menée contre l'islamophobie. Comment vous le voyez ?
Mené par qui ?
Oui, en fait, vous avez répondu en partie à cette question quand on parlait des moyens qui ont été débloqués.
Oui, mais ça vous savez, moi, si vous êtes allé sur Internet, peut-être vous êtes tombé sur certains de mes articles où j'appelle d'abord j'appelle les dirigeants des autres religions d'être solidaires. Je l'ai dit l'autre jour au CRIF. Je dis chaque fois qu'il y a un acte anti-juif. Antisémites, nous avons toujours dénoncé, nous avons pris position pour vous. Mais on ne vous a pas beaucoup entendu lorsqu'il s'agit d'actes anti-musulmans. Déjà, vous devez également dénoncer parce que nous sommes dans le même bateau et puis ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que les hommes politiques puissent avoir le courage, comme par exemple le fait très souvent le ministre de l'Intérieur, il faut le reconnaître. Bon, que des hommes politiques aient le courage de dénoncer les actes qui sont commis contre les musulmans, qu'ils puissent les dénoncer, qu'ils puissent les condamner aussi, fortement. Mais malheureusement, il y a un silence là-dessus de la classe politique. Voilà, toute tendance confondue.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le risque, c'est que certains musulmans préfèrent rentrer un peu dans l'anonymat ou dans la clandestinité? Alors, c'est un peu violent ce que je dis, mais qu'est-ce que ça provoque, du coup, sur cette stigmatisation sur la population musulmane en France? Vous qui êtes
Écoutez, ce que ça provoque par rapport à des jeunes qui sont franchement complètement déboussolés par ce qui se dit, c'est pour ça également il y a beaucoup de discussions sur l'opportunité de rester en France ou de partir faire le djihad ou de ne pas rester, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts dans la région ici, Montpellier, Nîmes, etc. Et même dans le Val-de-Marne, j'ai vu le préfet l'autre jour, il y a à peine 4 jours, où il me dit que son département qui était le premier département qui fournissait des jeunes au djihad, il est devenu le deuxième. Il en est un petit peu, entre guillemets, satisfait parce qu'il n'est plus le premier. Donc ça, c'est une part, c'est une fête européenne. Et puis, bon, d'autre part, maintenant, les gens, ils en ont marre. Quand vous rencontrez des gens, ils vous disent maintenant, on a un ras-le-bol qu'on ne veut même pas en parler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent maintenant. Ça nous passe par-dessus la tête. On en a marre de ça. Et puis, voilà. Bon, donc, ils sont un petit peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on les traite d'immigrés, on ne les traite pas de Français. Quand ils vont chez eux, dans leur pays respectif, on nous dit qu'on les traite d'immigrés. En France, on les traite d'immigrés. Ils sont assis entre des chaises. Ça, je parle au niveau des jeunes. Maintenant, les personnes âgées, vous savez, d'un certain âge, ils vous disent, bon, c'est comme ça, Allah Aleb, on est dans leur pays, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Non, ils n'ont pas à dire ce qu'ils veulent. Alors, il y a quand même 5 ou 6 millions de citoyens musulmans en France, dont 80% sont de nationalité française, ils doivent s'exprimer. Et la France ne doit pas oublier quand même, je parle aux racistes, il ne faut pas quand même qu'ils oublient que ces étrangers de l'époque, indigènes de la République, ils ont combattu pour la France, pour sa liberté. On vient de fêter le centenaire de Verdun. Il ne faut quand même pas oublier les 100 000 morts musulmans qui ont fait en sorte de libérer la France, dont 56 000 sont enterrés à Douaumont, d'une part, et d'autre part, ils ont également, aidé la France à se prospérer économiquement parce qu'ils ont construit la France. C'est pour ça que lorsque M. Valls, un jour, a dit la France sans les Juifs n'est pas la France, je lui ai répondu que la France sans les musulmans n'est pas la France, pour deux raisons. Parce qu'ils sont morts pour elle, sur les champs de bataille, et ils sont morts également sur les chantiers pour la construire.
Moi, je reviendrai sur ce que vous avez dit par rapport au djihad. Justement, est-ce que vous avez des actions par rapport à ça concrètes, ou est-ce que ça ne fait pas du tout partie de votre mission?
Si, ça fait partie, parce que j'ai rencontré des parents dont les enfants se trouvent là-bas. J'ai rencontré des familles qui ont perdu leurs enfants. Je suis allé les voir, j'ai discuté avec eux. Et ils étaient dans un état franchement de détresse totale, parce qu'il faut se mettre à la place d'un père ou d'une mère qui perd son fils ou sa fille de 20 ans ou de 19 ans. Je connais certains qui sont encore vivants, qui sont là-bas en Syrie, mais dont je vois les parents assez régulièrement. Parce que on m'appelle, je vais les voir. On a constitué avec une avocate, Maître Aoudia Khadija à Nîmes, qui suit des dossiers de certains djihadistes. Certains sont en prison, donc c'est leur avocate à les défendre, et d'autres, naturellement, dans les familles, étaient un petit peu dans le désarroi. Donc, elle a créé un petit groupe de travail pour rencontrer ses familles. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes dans son cabinet et j'étais surpris par leur jeunesse, 18 ans, 19 ans, des jeunes filles hein, qui, d'ailleurs, très radicalisées parce qu'elles ont même refusé de me serrer la main, pour vous dire un petit peu. Mais c'est pas, ça ne m'a pas découragé de discuter avec elles et d'écouter pourquoi elles sont dans cette situation-là et pourquoi elles souhaiteraient partir et pourquoi elles soutiennent leur compagnon, entre guillemets, qui est parti et qui se bat là-bas. Donc ce n'est pas quelque chose qui me désintéresse du tout. Au contraire, je suis ça de près et on essaie d'apporter notre contribution un petit peu sur cette affaire aussi.
Merci beaucoup Abdallah Zakri. Je rappelle que vous êtes donc président de l'Observatoire national de l'islamophobie.
Et le secrétaire général du Conseil français du culte musulman.
Merci. Ben, je vous remercie, je dis à tous vos auditeurs et auditrices, Ramadan Mubarak. Merci. Et que Dieu puisse nous assister dans notre combat.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.